Voilà, vous connaissez le menu. Bonjour à toutes et à tous. Et pour vous servir, Johan Farber, éditeur, essayiste, critique littéraire, co-rédacteur en chef de la revue Collatéral.
Bonjour. Bonjour.
Romain Debecq de Lièvre, dramaturge et producteur à France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, on commence avec ce nouveau Pierre Michon. Je suis à peu près sûr que cette expression « le nouveau Pierre Michon » doit le hérisser. À travers ses textes réunis sous le titre de « J'écris l'Iliade », l'auteur raconte sa trajectoire et il dit sans rire « Je suis un monument ». C'est vrai qu'il l'est. Son roman « Les 11 Grands Prix de l'Académie française » en 2009 a fini de le canoniser. Ici, il navigue entre récits d'aventure, textes érotiques, réflexions sur la littérature, épopées, loufoquerie. Vous avez compris, c'est pas très simple de le résumer. Et lâchement, je vais laisser faire nos critiques. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Romain Debecq de Lièvre.
Alors, j'écris l'Iliade, oui. C'est un livre, c'est un texte fou, j'ai trouvé. La question de la folie revient assez précisément, enfin de littéraire, la folie littéraire. Grandiloquent, contradictoire et tout à fait désarçonnant. C'est une espèce de forteresse, on tourne autour sans trop savoir ce que c'est, un peu comme dans l'Iliade.
Johan Farber.
Moi, je dirais que effectivement, c'est un texte mal aimable et qui pose en fait un certain nombre de questions à une figure dans laquelle est en fait coincé Pierre Michon depuis 1984, la parution des Vies minuscules. C'est-à-dire que c'est en fait ici un texte qui veut démolir le statut de Pierre Michon, à savoir celui du grand écrivain. Mmh. Toute l'œuvre de Michon s'est constituée sur une réflexion contre le mythe du grand écrivain, et lui-même s'est retrouvé de son vivant piégé dans cette stature de grand écrivain. Et j'écris l'Iliade, c'est une manière de passer pour lui cette névrose.
Romain Debecq de Lièvre, alors désarçonné par cette lecture.
Oui, alors désarçonné d'abord dans le style, parce que Pierre Michon, faut rappeler aux auditeurs, avec donc Les Vies minuscules, puis des textes comme Les 11, c'était un écrivain qui se singularisait par un certain style, c'était la question du style était assez centrale, avec des phrases assez longues, une construction très très élaborée, et là il coupe l'herbe sous le pied littéralement de tout, parce qu'on a des phrases courtes d'abord, c'est-à-dire très concrètement, il écrit des phrases très très courtes, et il construit ce récit en chapitres alternés entre des récits mythologiques qui remontent à l'Antiquité la plupart du temps, donc on va avoir beaucoup d'histoires, l'histoire de Pasiphae et du taureau, l'histoire de Actéon et Artémis, voilà, donc il va retravailler des mythes, et au milieu, on va avoir des textes qui vont s'attaquer aux contemporains. Ça fait une espèce de texte de montage très étonnant. Pour moi, c'est un texte qui est anachronique et chronique d'une certaine manière. Puisque donc il essaie de et à travers tout ça, il y a la question de l'érotisme, c'est-à-dire la question centrale du désir sexuel qui anime aussi bien la partie du passé que la partie d'aujourd'hui.
Romain, est-ce qu'on peut juste écouter un petit extrait?
Bien sûr.
Et je vous redonne la parole. On écoute ça, c'est un extrait lu par Marceau Vassy.
J'eus à 26 ans une aventure ferroviaire, à la faveur de laquelle je devins un autre. J'allais à Lyon. J'y allais faire mes 3 jours. Un mot sur cet usage dont le sens est perdu. C'était encore l'époque du service militaire obligatoire. Les conscrits, à qui on avait accordé un sursis d'études, devaient, pour confirmer leur aptitude aux armes, faire en caserne un bout d'essai avant d'être versés dans un régiment et entrer de plain pied, hussard ou artilleur. C'était cet examen, les 3 jours. De vagues tests de santé et de capacité mentale, de sociabilité élémentaire. On retenait ceux que leur étude n'avait pas gâtés et on laissait tomber les excités. J'avais reçu la convocation chez ma mère, dans une campagne de l'Ouest. On m'appelait pour les 3 jours à Lyon, au bout du monde. J'avais toute la France à traverser. Pas de TGV à cette époque. Les changements de ligne étaient innombrables, les voyages sans fin. Pour gagner Lyon, il me fallut un jour plein et une pleine nuit. Je conserve du cœur de cette nuit une empreinte mémorable.
Alors là, l'érotisme va poindre, il n'y est pas encore. Hein.
L'érotisme va poindre dans un milieu ferroviaire, ce qui est pour le coup assez étonnant, avec des machines ferroviaires érotiques, on pourrait dire ça comme ça. l'ambition de Michon, c'est de faire un texte sur l'amour et la guerre, c'est-à-dire sur l'Iliade. Très, très simplement, l'Iliade, une histoire d'amour et une histoire de guerre. Cette idée-là, elle va se connecter et ça va donner des choses qui sont, alors pour moi, peut-être un peu datées. La question du Georges Bataille, il y a tout cet imaginaire-là, Sade, la conflictualité dans le sexe, la conflictualité dans la guerre, et ça c'est assez drôle de lire ça maintenant parce que on se rend compte aussi de la structure de ce récit-là, c'est-à-dire on le voit comme quelque chose d'assez construit. Moi il y a des textes que j'ai trouvé magnifiques, c'est-à-dire un texte qui s'appelle Casque. où on a le récit d'Homère, par exemple. Michon, quand il raconte l'Antiquité, et ce que lui permet ce dispositif à phrase courte, c'est une prise directe. Il a envie de nous raconter l'Antiquité comme au présent. Et il y a des moments où ça marche. C'est-à-dire, il y a un moment où il raconte Homère qui devient aveugle, et il fait comme si Homère avait vraiment vu la guerre de Troie, ce qui est archi gonflé. Innocent d'une certaine manière, on a une espèce de geste comme ça très étrange, et on sent que c'est ça qu'il veut faire. Et avec l'idée de défaire sa stature de commandeur de la littérature, etc., il cherche un contact direct. Il y a un moment aussi où une femme lui raconte l'histoire d'Alexandre, il va dire « je suis Alexandre ». Enfin, il y a quelque chose comme ça de très très concret, et la réflexion la plus intéressante, je trouve, c'est la question des dieux. Qu'est-ce que c'est un dieu ? Qu'est-ce que c'est un dieu hier, dans les choses, dans les objets ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Et ça peut couvrir une multitude de champs, et ça, c'est la dimension la plus puissante, je trouve, de ce texte.
Johan Farber, livre mal aimable, c'est le mot que vous avez employé, c'est fort.
Oui, c'est un livre qui, en fait, est fait pour être, à mon avis, sciemment construit par Michon, pour être détesté par les lecteurs fervents de Michon. C'est-à-dire que Michon, ici, supporte très mal ce qui est, en fait, il est prisonnier de cette œuvre et de sa classicisation. C'est-à-dire que de son vivant, il a été enfermé, malgré lui, dans ce mausolée, et il est très attendu pour un style, on va dire, néoclassique qui n'a jamais été le sien. Michon n'a pas de style néoclassique, dès Les Vies Minuscules en 84 ou en 88 avec La Vie de Joseph Roulin ou un superbe texte comme Corps du Roi en 2002, c'est une phrase qui alterne toujours grandes envolées et aussi un caractère très terre-à-terre. Et ici, Michon veut profaner Michon, c'est-à-dire que c'est un texte non pas de formation, on a entendu tout à l'heure dans l'extrait qu'on avait l'impression qu'on reprenait tout le récit de formation, les premières expériences sexuelles, mais en fait c'est un récit de déformation et je dirais de profanation. C'est un texte très dur envers les lecteurs de Michon. Il y a une déconstruction.
Alors pourquoi ? Voilà, qu'est-ce qui
est déconstruction. Dur ouais. En fait, Michon ne supporte pas ce qu'il appelle les sectateurs, c'est-à-dire la secte des michonistes. Et donc, par exemple, les femmes qui assistent à ses lectures, il les appelle les rombières. Les chercheurs qui travaillent sur son œuvre, il les ridiculise en disant que ils se querellent pour rien, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils sont tous toujours d'accord. Et puis, il s'attaque aussi aux auteurs qu'il appelle effectivement des gens incultes. Et on voit bien que le but de Michon, c'est de détruire le monument Michon, c'est-à-dire de véritablement mettre à bas cette stature de grand écrivain. J'ai cité à l'instant Corps du Roi, et dans Corps du Roi, ça s'ouvre sur un superbe texte sur Beckett, et à l'intérieur de ce texte, il distingue deux choses. Il distingue que le roi a deux corps, un corps sacré, et c'est jusque-là ce qu'on a vu de Michon, c'est-à-dire un corps sacré. Et il dit qu'il y a aussi le corps mortel, charnel, le Saccus Merdae, et c'est en fait, j'écris l'Iliade, c'est le Saccus Merdae. Je voudrais rappeler que l'Iliade, l'argument de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. Et je dirais que j'écris l'Iliade, c'est la colère de Michon envers Michon, grand écrivain. Et de ce point de vue-là, c'est une construction extrêmement habile et qui pose une question à la critique, aux critiques que nous sommes réunis autour de cette table, c'est avons-nous bien lu Michon ? Allons-nous être encore en extase devant lui alors que tout est construit pour que nous ne le soyons plus ? Et je trouve que c'est un geste extrêmement, extrêmement fort qui avait été amorcé il y a 2 ans dans les deux Beunes, qui, avec l'ajout d'une deuxième Beune, la petite Beune, qui venait réécrire la première et où la grande Beune était en fait vraiment mise par terre. Et je crois que c'est vraiment cet effort-là de destruction qui, à mon sens, pour un écrivain, n'a jamais été tenté. Et ce qui rend ce livre tout à fait admirable et une curiosité littéraire totale qui joue de ses défauts. Et ça, c'est assez rare pour le dire.
Mmh. Oui, c'est un livre qu'on sent qui est traversé par un rire. Il y a un rire, une dérision, un destructeur, enfin quelque chose
de rire,
très,
voilà.
Très inquiétant. Il y a une scène, le dernier texte, je crois, c'est un auto-da-fé. Donc, c'est-à-dire un personnage qui brûle les livres, enfin de tous les livres du patrimoine, voilà. Donc, une scène absolument mal aimable, comme dit Johan. Voilà, et donc Michon, il est là-dedans. Et alors, ça produit un texte, en fait, qui est très très étrange, puisqu'on a à la fois, ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de prise directe, d'aller directement dans le mythe, dans le sexe, dans le corps, dans quelque chose de très sensible, charnel, etc. Et en même temps, un texte qui est extrêmement, comment on dit aujourd'hui, méta, je sais pas.
Oui, c'est la grande,
il y a des références
la grande
sur
expression.
Borges. Il y a tout un texte qui démarre, on pense que c'est Pierre Michon qui écrit à la première personne, puisque ça se passe chez les écrivains, chez Gallimard, etc. Quand tout d'un coup apparaît le personnage de Pierre Michon. Donc on se dit, ah, le jeune n'est pas Pierre Michon. Rien n'a l'air de ce qu'il a l'air d'être. C'est quelqu'un d'extrêmement... Voilà, et quand je parlais du rire, c'est un livre qui est extrêmement rusé. C'est-à-dire qu'au dehors de toutes ces histoires-là, on sent qu'il y a quelqu'un qui ruse en permanence, qui construit des faux-semblants en permanence, et ce double mouvement d'être à la fois très brutal, très violent, très direct... et en même temps réflexif, il y a ces deux dimensions-là qui sont ensemble. Et ça, c'est quand même un geste littéraire qui est très étrange. Enfin, c'est pas tous les quatre matins qu'on lit un texte comme ça.
Et dans un texte très ramassé ?
Oui, en plus, dans quelque chose qui est très fort. Après, vu la variété, on a une impression à la lecture de très très grande densité aussi.
Ben oui.
La variété des registres, entre les récits, voilà, qui empruntent à une manière. Enfin, je sais pas, il y a des choses. Je pense à l'histoire du taureau.
Il s'en remet pas,
on parle de l'histoire du taureau blanc. Donc, c'est
faudrait
l'histoire de Pasiphae qui nous raconte, Pasiphae qui tombe amoureuse d'un taureau blanc. Et donc, concrètement, elle a un rapport sexuel avec un taureau. Mais vraiment décrit de manière
très précise.
Très précise, très frontale. Et la question du désir est là-dedans. Et en même temps, quand on le lit, on se dit, mais oui, il veut revenir à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, Zeus, sous la forme d'un cygne, a violé Léda? C'est-à-dire comment matériellement un signe, corporellement. Et ce texte, par exemple, est dédié à Philippe Descola. Alors moi, ça m'a fait rire. D'imaginer Philippe Descola lire ce texte, enfin, anthropologue qui a donc à réfléchir aussi sur... Et c'est ça aussi, c'est là aussi où Michon est un immense roublard. On sent qu'il est documenté aussi sur les questions actuelles. La question animale, sur la question, du féminisme. Il y a cette question-là qui apparaît, même si on sent que, il est pas là-dedans. Et c'est ça aussi qui est extrêmement mandaté, c'est la question du rapport sexuel en tant que rapport hétérosexuel, qui est le rapport mythologique fondateur, même s'il y a quelques mentions de l'homosexualité avec Actéon, des choses comme ça. Mais voilà. Et donc, on a cet objet. J'ai eu une intuition, un sentiment à la lecture, c'est que j'ai eu envie de le poser sur une étagère pendant 10 ans et de le relire dans 10 ans pour voir ce que ça donne.
Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comme disait l'autre. Johan Farber, sur le féminisme, sur les femmes, sur l'érotisme, quel regard vous avez jeté sur ce livre?
Alors, moi, je dirais, j'écris l'Iliade, mais aussi j'écris Priape, parce que le dieu qui est véritablement adoré ici, c'est Priape. Et effectivement, ici, il y a un érotisme de la pornographie. Hein. Je crois qu'il y a vraiment un grand plaisir de Michon à écrire, les auditeurs me pardonneront, le mot bite à énormément de pages pour que nous ayons des citations. Il y a une citation, page 50, il y a de la bite et de la bite, signé Pierre Michon. Et je pense qu'il s'amuse beaucoup, avec ça. Mais je dirais que ça a ses limites, en fait. Parce que le texte bute sur, finalement, un jeu sur le masculinisme. C'est-à-dire que le texte, on ne sait pas décider, finalement, si c'est un texte masculiniste ou qui joue sur les codes du masculinisme. Et à partir de là, je dirais qu'il y a une zone flottante où le dispositif atteint, il me semble, ses limites. Mais le tout est réinscrit, il me semble, dans une démarche profondément originale, qui éclaire d'ailleurs rétrospectivement les deux bœufs et qui montre que en fait Michon s'amuse beaucoup. Il dit par exemple à propos du texte que vous citiez, il y avait c'est du Michon, c'est-à-dire c'est sadique et gnangnan. Et effectivement, on peut dire beaucoup de choses de Michon, mais on peut pas dire qu'il est gnangnan. Voilà. Et donc il y a vraiment ce jeu qui se met en place. Et je crois que l'interrogation notamment sur le féminisme, elle peut être datée. Je crois que elle joue volontairement sur les dates, sans qu'on puisse démêler, et ça donne, je dirais, un petit peu une aporie à ce texte. Et effectivement, faudrait peut-être le relire dans 10 ans pour voir si d'ici là, il n'y a pas d'autres textes de Michon qui se sont ajoutés pour démolir à nouveau cette figure du grand écrivain, cette névrose nationale qui est la sienne.
J'écris l'Iliade de Pierre Michon, ça sort chez Gallimard le 6 février prochain.